Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous fêtons Saint-Jean de la Croix le 14 décembre, ami de Thérèse d'Avila. Il a réformé la famille religieuse carmélitaine dans les années 1570. Il a été proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XI en 1926 et surnommé dans la tradition docteur mysticus, le docteur mystique. Saint Jean de la Croix, poète et mystique, est une grande figure du Carmel. Nous le découvrons aujourd'hui avec Frère Henri Carme au couvent de Toulouse. Bonjour Père Henri.
Bonjour.
Nous allons commencer par quelques repères biographiques. Jean de la Croix est né en 1542 dans le petit village de Fontiveros, proche d'Avila, dans une famille pauvre. Il entre au Carmel à l'âge de 21 ans. À l'invitation de Thérèse de Jésus, qu'on connaît plus souvent sous le nom de Thérèse d'Avila, il entreprend une grande réforme de la branche masculine du Carmel, ce qui ne se fait pas sans heurts puisqu'il est emprisonné en 1577 suite à des accusations injustes. Il réussit à fuir et s'installe en Andalousie, puis il revient 10 ans plus tard dans sa région natale. Il est appelé à de hautes charges dans l'ordre et avant de partir pour le Mexique, il tombe malade et meurt dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, alors que ses confrères récitaient l'office de matine. Il les quitte en disant « Aujourd'hui, je vais chanter l'office au ciel ». Frère Henri, ça a été une biographie brossée à très grands traits. Quels éléments importants voudriez-vous rajouter ?
Alors, votre présentation est très bonne. Effectivement, je pense qu'il y a une insistance sur ce temps d'emprisonnement dans le cachot de Tolède, un cachot conventuel, où il est régulièrement flagellé par ses frères. Et dans ce cachot, il va rester 9 mois, le temps d'un enfantement. Et ça marque vraiment un temps de bascule dans sa vie. Et au sortir de ce cachot, il dira à l'une de ses dirigées, « Anne, ma fille, une seule des grâces que Dieu m'a faites dans ce cachot ne peut se payer avec moins que plusieurs années de prison. » Autrement dit, il a vraiment fait l'expérience de Dieu. Et à partir de là, sa vie va prendre un nouvel essor, une très grande fécondité va naître après ce temps d'épreuve.
Et c'est justement pendant ce temps d'épreuve, ces 9 mois d'emprisonnement, qu'il va écrire.
Alors tout à fait, il n'a pas de papier, mais il compose mentalement des poésies. Il n'a que son bréviaire et il compose mentalement des poésies, des gloses pour s'entretenir des choses de Dieu en fonction des temps liturgiques. Et lorsqu'il va avoir enfin un tout petit peu de liberté parce qu'il a un gardien qui est plus complaisant, la première chose qu'il demande, c'est du papier et un crayon pour pouvoir écrire ses poésies. Et lorsqu'il s'évade de sa prison, il se réfugie chez les carmélites de Tolède. Et là, à la grille du chœur, il va chanter ses poésies qu'il a composées. Et on a le récit d'une sœur qui raconte cela, comment elle a recueilli ses poèmes à sa sortie de prison. Donc on voit l'importance pour lui de la poésie comme l'expression première des grâces reçues. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de lui, c'est peut-être d'abord un poète avant d'être un écrivain qui fait des traités dogmatiques.
D'accord. Saint Jean de la Croix s'appelait au début de sa vie religieuse frère Jean de Saint Matthias. Il a donc changé de nom. Pourquoi ?
Alors, lorsqu'il rentre chez les Carmes, il reçoit ce nom de frère Jean de Saint Matthias. Et lorsqu'il rencontre Thérèse d'Avila, il va décider de rentrer dans ce mouvement de réforme. Et il va commencer la réforme dans un lieu qui s'appelle Duruelo, qui est un lieu très très petit, très perdu encore aujourd'hui. Et dans ce lieu, il va commencer une vie nouvelle. Il va prendre un habit de grosse bure par opposition à l'habit de drap fin qui était l'habit des Carmes chaussés. Et il va embrasser la règle primitive de l'ordre des Carmes. Et il va prendre un nouveau nom qui est frère Jean de la Croix. Et ce nouveau nom le définit tout entier, parce que sa vie est marquée par ce mystère de la croix, si bien que dans l'oraison de sa fête, ce qu'on retient de lui, ce que l'Église retient de lui, c'est un extraordinaire amour de la croix, un extraordinaire amour de la croix et un renoncement total à lui-même. Alors, si vous voulez, je pense qu'il peut être vraiment un maître pour nous montrer à quel point la croix n'est pas le lieu du plus grand malheur, mais le lieu où Dieu se donne et nous donne à goûter son amour.
Et c'est voilà. Comme ça que lui, il a vécu, il avait une vénération de la croix comme lieu du véritable amour de Dieu.
Exactement. Alors, dès son enfance, hein, il est marqué par l'épreuve, il perd son père alors qu'il est enfant, sa mère est très pauvre, ils sont vraiment ballottés dans des situations difficiles. Et lui grandit, si vous voulez, au milieu des enfants pauvres de la rue. Et il va être toujours dans le souci des autres, il sera infirmier dans un hôpital. Et ce qu'on voit chez lui, c'est que ses épreuves ne l'ont pas aigri, mais ont ouvert en lui des plus grandes capacités d'amour. Et c'est ce qu'on voit tout au long de son existence. Et c'est pourquoi il va prêcher vraiment ce mystère de la croix comme le lieu où notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Voilà. Si vous permettez, j'aimerais vous citer un poème. Ça pourra nous faire entrer vraiment dans son écriture et sa musique. Voilà, c'est un poème où il parle de Jésus comme un pastoureau, un petit berger, pastorcico. Un pastoureau solitaire et tout chagrin. Il est étranger à la joie et au contentement et songe à sa pastourelle et son cœur est tout blessé d'amour. Il ne pleure pas parce que l'amour l'a blessé, il n'a pas de peine d'être ainsi affligé, bien que son cœur soit blessé, mais il pleure parce qu'il pense qu'il est oublié. La seule pensée qu'il est oublié de sa belle pastourelle le peine beaucoup. Il se laisse maltraiter sur la terre étrangère, car son cœur est tout blessé d'amour. Le pastoureau dit donc, « Ô malheureux, celui qui s'éloigne de mon amour et qui ne veut pas jouir de ma présence, mon cœur est tout blessé d'amour pour lui. Après un long temps, il s'est élevé sur un arbre, y étendant ses beaux bras. Il a été attaché et est mort, le cœur tout blessé d'amour. » Voilà, donc vous voyez, ce pastoureau, il est à la recherche de sa pastourelle, c'est-à-dire c'est l'âme qui est... il se présente comme l'unique époux des âmes.
Et il désire être aimé.
Ouais. Et donc son désir d'être aimé fait qu'il part à la recherche. C'est vraiment, on fête les anniversaires des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Vous reconnaissez le même message.
Ouais. Hein. L'amour n'est pas aimé.
Exactement, l'amour n'est pas aimé. Et il souffre de l'ingratitude, de l'absence de retour. C'est François d'Assise qui crie « l'amour n'est pas aimé ». Et c'est la source de sa passion, ça aussi, Thérèse d'Avila l'expliquera à sa manière, la passion de Jésus, la souffrance de Jésus, plus encore que ses souffrances physiques, c'est la souffrance de son cœur, de son âme, de n'être pas accueilli, que son amour ne soit pas accueilli.
Cet abandon.
Voilà. Et donc devant ce refus, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse monter son cœur. Et c'est ce qui se passe dans le mystère de la croix, c'est la mise à nu du cœur de Jésus. Vous voyez la conclusion, hein, il a été attaché et est mort, le cœur tout blessé d'amour. Et donc vous voyez à quel point la croix est vraiment le lieu de la révélation de l'amour de Jésus pour nous et le lieu de jaillissement de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire le lieu où Jésus nous donne son amour. Et c'est pourquoi Jean de la Croix va nous expliquer comment, par le renoncement, l'accueil de ce mystère de la croix, je vais véritablement boire à la source. Je vais me rassasier de cet amour.
Avant de parler de la symbolique de la nuit que Jean de la Croix a beaucoup utilisée, je voulais juste que vous nous racontiez la rencontre de Jean de la Croix avec Thérèse d'Avila.
Alors, il est jeune, hein, il a 25 ans. Elle est plus âgée, elle est dans la soixantaine, et ils se rencontrent au couvent de Medina del Campo, où Thérèse vient de fonder un couvent de carmélites. Et donc lui est un jeune carme. On a parlé de lui à Thérèse d'Avila. On a parlé à Thérèse d'Avila de ce jeune religieux très fervent. Et elle se dit que certainement elle a là quelqu'un qui pourra introduire la réforme chez les frères, puisque cette réforme a commencé déjà chez les sœurs depuis quelque temps. Et leur rencontre va être vraiment un moment de grâce pour Jean de la Croix et pour Thérèse, qui a l'assurance d'avoir trouvé la bonne personne, parce que Jean de la Croix avait, alors il s'appelait Jean de Saint-Mathias, hein, il avait décidé d'entrer à la Chartreuse. Donc il était un religieux très très fervent, il avait fait notamment un devoir à l'université de Salamanque sur la contemplation, et donc c'était un grand priant, et son souci constant c'était l'union à Dieu. Vous savez, une des phrases qu'on retient de lui, c'est « Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres faites sans cela. » Donc il a le souci de la concentration du cœur, de l'application du cœur à Dieu. Ne laissez jamais votre cœur s'échapper, ne serait-ce que le temps d'un credo. Voilà. Et donc dans cette recherche vraiment de la contemplation, c'est-à-dire de l'union à Dieu, dans le silence, il veut rentrer à la Chartreuse. Et dans cette rencontre avec Thérèse d'Avila, Thérèse le convainc de mener cette vie contemplative au sein de son ordre du Carmel.
Et quand vous dites cette union à Dieu, ça nous fait quand même penser à la petite Thérèse qui ramassait une épingle avec beaucoup d'amour.
Exactement, ouais. Exactement, tout à fait. Oui.
Alors, Père Henri, nous allons parler de ce symbolisme de la nuit que Jean de la Croix utilise pour expliquer l'expérience amoureuse de Dieu. Alors, c'est vrai qu'on pourrait plutôt voir la nuit comme une absence de Dieu. Quelle différence Jean de la Croix fait-il entre ces deux notions ?
Alors, pour Jean de la Croix, la nuit, vous savez qu'il a composé un poème qui s'intitule « Par une nuit obscure », et il montre comment l'âme s'évade à la faveur de la nuit pour aller à la rencontre de son bien-aimé. Et donc cette nuit, il va nous montrer que c'est la nuit de la foi. C'est une emprise de Dieu sur l'âme. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion radicale entre les capacités de l'âme et l'infini de Dieu. Si bien que nous sommes dotés d'une mémoire, d'une intelligence et d'une volonté, qui sont nos facultés spirituelles, mais ces facultés ne sont pas capables de saisir Dieu tel qu'il est. Et lorsque Dieu se donne à nous, s'approche de nous, il met toutes ses puissances dans l'obscurité, il les vide en quelque sorte. Et ainsi, lorsque la lumière de Dieu s'approche de nous, elle plonge notre intelligence dans la nuit. Et il donne l'image du hibou ou de la taupe qui est éblouie par une trop grande lumière. Et cette emprise divine, donc sur nos facultés, elle est purgative et ensuite illuminée.
Purgative, c'est-à-dire qu'elle purifie.
Elle purifie, voilà, parce que nous sommes blessés par le péché originel et nos puissances sont tournées vers les créatures avec une volonté de posséder. Et elles vont devoir être en quelque sorte purifiées de ces appétits, de ces volontés de prendre, de saisir. Il y aura cette phrase étonnante, hein, « L'intelligence ne peut s'approcher de Dieu qu'en vaincue. »
Qu'en vaincue.
En vaincue, c'est-à-dire en reconnaissant l'infini du mystère qui se tient devant elle. C'est, je crois, saint Thomas d'Aquin qui dit, hein, la plus haute connaissance de Dieu à laquelle on puisse parvenir, c'est de connaître Dieu comme inconnu.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension passive dans cette nuit obscure ?
Alors complètement, donc, et dans cette nuit, c'est véritablement Dieu qui prend l'initiative. Vous savez, dans le poème, il dit « Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, au le ressort, je sortis sans être vu. » Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'âme est touchée par l'amour de Dieu, et touchée par l'amour de Dieu, elle se laisse purifier, c'est-à-dire elle ne retourne pas vers les choses du monde, mais elle se laisse travailler par Dieu dans cette obscurité. Et donc, effectivement, elle est appauvrie Elle est beaucoup appauvrie, elle a le sentiment de ne rien savoir. J'ai été réduit à rien. Mmh. Et c'est là qu'on retrouve le sens du mystère de la croix. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas Dieu par acquisition, par enrichissement, mais par appauvrissement. Plus l'âme est dénudée, dépouillée, plus elle s'approche de Dieu par transparence, si vous voulez. Mmh. La petite Thérèse écrit à sa sœur, « Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. » Et chez Jean de la Croix, on a vraiment ce thème du dénuement, le desnudes, c'est-à-dire qu'il faut que l'âme soit dépouillée de tout, de toutes ses volontés de puissance, de toutes ses pensées, de toutes ses constructions, qu'elle soit dépouillée de tout, et alors elle trouve Dieu dans ses mains vides.
Et donc l'effort humain, finalement, ne peut pas arriver à ce résultat de dépouillement.
Non, non, non. Mm. Alors, ce que Jean de la Croix décrit, effectivement, c'est qu'il y a une nuit passive et une nuit active, c'est-à-dire qu'il va nous donner des conseils pour accompagner l'action de Dieu sans s'y opposer.
Et par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conseil ?
Eh bien, le fait de savoir renoncer à des biens qui nous sont proposés pour choisir l'amour de Dieu qui monte dans notre cœur. Alors, c'est un sujet délicat, mais par exemple, je pourrais vous donner... par exemple, je suis très, très sûr de mes pensées, de mes idées. J'ai la conviction d'avoir raison. Et peut-être que, justement, la foi me fait dire, mais est-ce que je connais les desseins de Dieu ? Est-ce que je ne dois pas plutôt accueillir ce qui advient sans me révolter, sans vouloir m'imposer à la réalité qui m'est donnée ?
Mmh. Et Père Henri, vous êtes père maître, donc vous vous occupez de la formation des jeunes frères qui arrivent au couvent de Toulouse. Qu'est-ce que vous leur dites justement pour arriver dans ce dépouillement de l'âme, dans cette nuit obscure ?
Alors... C'est un sujet délicat. Ouais. Je pense que ce qui est vraiment premier et fondamental, c'est de trouver la source, de goûter l'amour de Dieu. Parce qu'à la racine même de cette nuit, c'est la nuit de la contemplation. Et Jean de la Croix, de fait, écrit ses livres pour des personnes qui commencent à goûter l'amour de Dieu. Parce que si je me mortifie, si je renonce sans être positivement attiré par un bien meilleur, j'engendre de la frustration pure et c'est de l'autodestruction, de l'automutilation.
Donc il y a d'abord cette rencontre, oui. Ce cœur à cœur avec Dieu.
Exactement.
La contemplation.
Voilà. Ouais. Et cette contemplation, c'est alors beaucoup dans l'oraison qu'elle est donnée. Et effectivement, on perçoit que Dieu agit dans l'âme en la dépouillant progressivement. Et Jean de la Croix nous parlera du passage de la méditation à la contemplation. C'est-à-dire qu'au début, la personne, l'âme, prie avec ses capacités naturelles, elle va méditer sur l'Évangile, elle va réfléchir, elle va aller vers Dieu, elle va faire des efforts
avec vertueux, ses mots aussi.
Avec ses mots. Mmh. Et puis progressivement, Dieu va mettre sa sensibilité un peu dans la nuit. Et donc, elle va être asséchée et elle va devoir trouver une nourriture plus intérieure. Et c'est là que Dieu la nourrit directement au cœur, un peu comme par perfusion, si vous voulez, ou comme quand on vous met une sonde gastrique. Donc, Dieu va nourrir les puissances directement d'un amour qui, au début, est quasiment imperceptible, qui s'infuse directement dans l'âme. Il parlera de l'attention amoureuse. Vous pouvez penser au paysan du curé d'Ars qui regarde le tabernacle, qui dit « Je la vise, il m'avise ». C'est une oraison de simple regard. Voilà. Dieu nourrit mon cœur dans le silence. Donc silencieusement, Dieu m'enseigne à parler le même langage que lui, qui est un langage... du cœur qui se donne. Vous vous souvenez du pastoureau, hein, il me donne son cœur et moi j'apprends à être un cœur qui se donne dans le silence.
Est-ce que ça peut se mesurer, est-ce qu'on peut prendre conscience justement de cette nourriture de Dieu dans notre cœur?
Complètement, ah, oui. Alors Jean de la Croix donne des signes pour pouvoir reconnaître ce passage, le moment de ce passage où Dieu me fait faire ce passage. Alors ce serait un peu long à développer, mais il explique notamment comment on n'a plus le goût des choses du monde. C'est une transformation du goût. Hein. C'est-à-dire que je quitte le goût des créatures, des choses de ce monde, pour passer au goût de Dieu qui se donne dans mon cœur. Et donc, le monde devient gris, si vous voulez, parce que rien dans ce monde ne peut me donner la joie véritable. J'ai soif de Dieu. Et puis, cette incapacité que j'ai à prier comme avant. Et beaucoup de gens sont déroutés. C'est pour ça que Jean de la Croix a un enseignement très précieux. Hein, parce que je vois que je n'arrive plus à prier et je suis persuadé que je suis en train de m'éloigner de Dieu, alors que c'est le contraire qui se passe. C'est Dieu qui, s'approchant de moi, transforme ma manière de prier.
Et pour des personnes qui ne sont pas religieuses, qui n'ont pas fait ce vœu de se consacrer totalement à Dieu, des personnes qui vivent dans le monde, comment elles peuvent équilibrer cette soif qui n'est plus pour les choses du monde avec cette soif de Dieu?
Alors, c'est tout à fait possible. Hein. Déjà, nous proposons régulièrement des écoles d'oraison, ouais, où on a toutes sortes de gens qui viennent. Et beaucoup de gens font cette expérience-là d'entrer dans la prière intérieure, la prière silencieuse, et puis de ce moment où effectivement leur prière se transforme et devient un cœur à cœur dans le silence.
Et quitte pas le monde pour autant.
Et dans la foi. Et ils ne quittent pas le monde pour autant. Mais c'est vrai que cette transformation du goût fait que leur cœur prend une densité nouvelle parce que celui qu'ils cherchent, celui que l'âme aime, demeure au-dedans. Et ça, c'est vraiment la transformation qui s'opère. C'est saint Augustin, hein. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Donc saint Augustin cherche partout la beauté et il la cherche partout dans le monde et il est comme un affamé jusqu'à ce qu'il la trouve au-dedans de lui. Tu as crié, tu as vaincu ma surdité. Et Jean de la Croix, dans le Cantique spirituel, raconte ce jeu de cache-cache entre Dieu et l'âme, comme deux amoureux qui se cherchent. Et l'âme crie: où t'es-tu caché, bien-aimé? Où est celui que mon cœur aime? C'est le cantique des cantiques, c'est aussi Marie-Madeleine au matin de la résurrection.
Alors, je vous propose d'écouter justement ce cantique spirituel de Jean de la Croix, interprété par Pierre Eliade, et nous allons revenir justement, vous allez nous l'expliquer, frère Henri.
T'es-tu caché, ami, tu m'as laissé pleurer. Comme le cerf, tu as fui après m'avoir blessé. Après toi, j'ai crié, mais tu étais parti. Berger, si vous allez là-haut dans vos bergeries, oh, si vous rencontrez celui que je chéris, dites-lui que je languis, je peine, je meurs pour lui. En cherchant mes amours, j'irai par les monts, les rivages. Je ne cueillerai pas de fleurs, je n'aurai pas peur des bêtes sauvages. Je passerai les barrières, les frontières, aux forêts et fourrés plantés par la main de l'amour, aux verdureux et prés émaillés et fleuris,
Oh, dites-moi surtout s'il est passé parmi vous. Il a répandu mille grâces en traversant les bois. Rien qu'en les regardant, de son visage à chaque fois, sur chaque feuille il a laissé un habit de beauté. À qui me guérira, donne-toi enfin pour de vrai. Et s'il te plaît, ne m'envoie pas d'autres messagers désormais. Ils ne savent pas me dire les mots que je désire. Car tous ceux qui te cherchent de toi, mille grâces inventent. Ah oui, tous ils me blessent, ils me laissent mourante d'un je ne sais quoi qu'ils balbutient de toi. Oh ma vie qui vit sans vivre, comment peux-tu tenir les flèches qui t'arrivent devraient te faire mourir de tous ces rêves en toi, de l'amour que tu conçois.
Présence. Église, Isabelle Duché.
Saint Jean de la Croix que nous fêtons le 14 décembre, réformateur avec Thérèse d'Avila du Carmel. C'est un grand poète et un mystique du XVIe siècle. Lors de son emprisonnement en 1577, Jean de la Croix compose le cantique spirituel dont nous venons d'écouter une partie parce qu'il est beaucoup plus long que ça. De quoi s'agit-il, frère Henri ?
Alors, ce cantique spirituel, c'est une glose autour du cantique des cantiques et qui fait le récit de la recherche de Dieu par l'âme et de l'âme par Dieu, comme deux amoureux qui sont en quête l'un de l'autre. Et on voit comment Dieu touche l'âme et ensuite l'âme part à sa poursuite parce qu'elle a été touchée d'un très grand amour. Et donc elle traverse les forêts, les bois touffus. Elle voit partout des traces de son bien-aimé. Elle le reconnaît présent partout. Et donc elle se lance à sa poursuite. Et rien ne peut lui donner ce bien-aimé qu'elle cherche. C'est vraiment cette histoire de toutes les traces de beauté, de bonté, toutes les expériences d'amour sont des étincelles qui nous parlent de celui qui est tout cela et qui veut véritablement nous rencontrer. Et la conclusion de ce cantique, c'est les épousailles, c'est-à-dire que le but de la vie spirituelle, c'est le mariage spirituel, c'est-à-dire c'est cette union totale de l'âme avec Dieu. Voilà. Alors pour vous dire simplement une phrase qui peut aider bien à comprendre, Jean de la Croix nous dit que l'âme se souvienne, qu'elle se souvienne, pardon, si l'âme cherche Dieu, qu'elle se souvienne que son bien-aimé qui est Dieu la cherche avec infiniment plus d'ardeur.
C'est ce que vous disiez au début.
Voilà.
Avec l'amour n'est pas aimé. Voilà. Voilà. Il y a vraiment ce désir de Dieu d'aimer chacun et d'être aimé en retour.
Oui. Et c'est la présence. Présentation de Dieu comme un amoureux, et ça vous le retrouvez chez tous les saints. La petite Thérèse nous parle de cet amour miséricordieux qui brûle de se donner, l'amour est comme comprimé en lui. Et c'est vrai que dans Deus Caritas Est, Benoît XVI a eu l'audace de parler de l'éros de Dieu, comme si voilà, il brûle du désir de se donner à sa créature.
Et on entend dans ce cantique spirituel cette soif de Saint Jean de la Croix. Il dit « D'autres messagers ne savent pas me dire les mots que je désire.
Mmh. »
C'est vraiment, on sent bien que Saint Jean de la Croix est tout tourné vers ce désir de vivre en Dieu.
Exactement. Donc tout son désir, c'est son désir le plus profond, c'est d'aller vers ce Dieu, son bien-aimé, celui que son cœur aime. Et c'est vrai de toute personne, de toute âme. Hein. C'est-à-dire que beaucoup ne le connaissent pas, ne le savent pas, mais c'est lui qui est l'horizon de notre désir, parce que lui seul est à la mesure de notre cœur. Nous avons une soif d'infini, et c'est pour ça que toutes les créatures sont des messagers qui ne peuvent pas me dire ce que je veux. Et ultimement, il dira, elles me disent un je ne sais quoi, no sé qué. C'est-à-dire que je sens un mystère et c'est ce mystère que je veux.
Oui. Alors, autre livre, autre ouvrage de Saint Jean de la Croix, c'est La vive flamme d'amour, qui poursuit ce chemin de purification de l'âme et laisse le soin à l'Esprit Saint d'illuminer l'âme.
Oui, alors dans La vive flamme d'amour, c'est un poème beaucoup plus court qui nous parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint brûle au dedans de l'âme, ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Alors ça, c'est une vérité fondamentale pour toute l'Église et le Carmel en particulier, que cette présence de Dieu dans l'âme, Dieu habite dans le centre le plus profond de mon âme. Et Jean de la Croix va expliquer, il utilise une comparaison de la physique de son temps, hein, c'est-à-dire il dit chaque élément tend vers le centre de sa sphère. Hein, c'est-à-dire que la pierre tend, elle tombe parce qu'elle tend vers le centre de la terre. De la même manière, le feu monte parce qu'il veut rejoindre le soleil, qui est le centre de sa sphère. Voilà, bon, c'est une physique un peu particulière.
Et donc, le centre de la sphère de l'homme, c'est cette âme,
c'est Dieu.
Et c'est ce cœur de l'homme.
Voilà, c'est-à-dire que le centre de l'homme, le centre de l'âme, c'est Dieu. Et donc, au fond de notre âme, il y a une tension, une tendance, exactement comme une attraction, une force d'attraction vers Dieu. Je suis attiré vers Dieu. Et il dit, plus... ce Dieu, il est amour, c'est l'Esprit Saint qui brûle au-dedans de moi. Et mon désir, c'est de le rejoindre comme le feu veut rejoindre le soleil. Et plus je vais laisser monter cette flamme, plus elle va tendre vers ce centre. Et il explique, je m'approche de Dieu, de mon centre, par l'amour. Donc plus j'aime, plus je me rapproche de Dieu, plus je me rapproche de Dieu qui habite au plus profond de moi-même.
Et donc ça, c'est l'action de l'Esprit-Saint qui permet cet
oui.
élan, finalement.
Voilà. Alors, ouais. il va montrer comment l'Esprit-Saint brûle l'âme. Alors, il a une comparaison très, très parlante, hein, c'est celle de la bûche enflammée. Donc, notre âme est comme une bûche de bois humide, de bois vert, de bois humide. Et donc, lorsque l'amour de Dieu l'attaque, elle commence par la faire fumer et crépiter. Elle en chasse l'humidité. Et donc l'amour de Dieu, qui est l'Esprit Saint, chasse de notre âme tout ce qui lui est contraire. Et il dira, c'est en quelque sorte un purgatoire anticipé. C'est ce qui se passe au purgatoire. L'amour de Dieu brûle tout ce qui est contraire. C'est une sorte je ne suis pas très compétent, mais une sorte de chimiothérapie, si vous voulez. C'est
il
véritablement
brûle les mauvaises cellules.
Voilà, oui. Tout est et c'est une lumière très pure. Et tout ce qui s'oppose à elle est pulvérisé progressivement. Voyez.
D'accord. Mais ça ne se passe pas sur la Terre, alors?
Si, ça se passe sur la Terre.
Parce que vous parlez de purgatoire.
Oui, mais c'est la même chose qui se passe.
Ah, c'est la même chose, d'accord.
Voilà, la même chose qui se passe.
Parce qu'ici, il faut attendre d'être mort.
Ben hein. Oui. C'est la même chose qui se passe dans la vie spirituelle, c'est-à-dire que l'Esprit Saint habitant dans mon cœur le purifie continuellement. Et donc, il y a une dimension purgative qui est parfois douloureuse et difficile à porter, c'est la nuit. Et puis, lorsque ce feu a enfin atteint une certaine incandescence, eh bien, il va transformer la bûche en feu, en brasier. Et c'est ce qu'on appelle l'union transformante, c'est-à-dire que l'âme est devenue semblable à Dieu, elle paraît comme Dieu. Et ça, c'est l'union, c'est-à-dire que la personne n'agit plus par son mouvement propre, mais elle est mue par Dieu. Et il va nous donner l'exemple parmi tous de la Vierge Marie, qui a toujours agi mue par l'Esprit Saint. Voilà. Mais les saints, il faut se dire, les saints, ce sont des vitraux, ce sont des personnes qui sont transparents de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se déploie en eux, déploie toute leur personne, mais ce qui se dit à travers eux, c'est la puissance de l'esprit d'amour. Voilà. Ouais. Et au fond, Jean de la Croix nous dit, plus vous vous ouvrez à l'amour de Dieu, plus vous allez devenir la personne que vous devez être, au service des autres, et puis pour la gloire de Dieu. Retenez peut-être uniquement cette phrase, hein, il dit, l'amour de Dieu est la santé de l'âme. L'amour de Dieu est la santé de l'âme.
Magnifique. Alors, toujours sur ce chemin de purification de l'âme, Jean de la Croix prend l'image de la montée du Mont Carmel. C'est aussi le titre d'un de ses ouvrages. Alors, on a l'impression qu'on n'est pas encore arrivé dans ce cœur à cœur, frère Henri.
Alors, la montée du Mont Carmel, c'est un ouvrage plus ascétique, on va dire, hein, qui comporte 3 livres. Et c'est justement ce chemin de purification. Jean de la Croix a fait un dessin qui est assez répandu, qui est le dessin du Mont Carmel, où il montre comment l'âme doit passer par le chemin du nada, hein, pour arriver au sommet de la montagne du Carmel, où elle va manger au festin de Dieu et se rassasier de l'Esprit de Dieu et trouver la vraie liberté. Et donc, c'est de ce chemin du nada dont
nada, rien en espagnol.
Rien, nada, nada, nada. Et si, alors, c'est vrai que quand on lit cet ouvrage, on peut être un peu effrayé par l'exigence de saint Jean de la Croix. Il faut se dire que c'est rien de plus que l'Évangile. Hein. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et Jean de la Croix va nous expliquer comment il faut renoncer à tout. Renoncer à tout, c'est-à-dire à tous les... Mais il nous dit qu'il faut que ce renoncement s'étende à tout. C'est-à-dire que j'ai une possessivité native, originelle, hein, qui fait que je veux prendre les choses pour moi, y compris les pensées, les souvenirs,
les
affections, les images de moi-même. Et donc, il va prendre une à une toutes les dimensions de notre être, notre sensibilité, notre imagination, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, pour montrer comment on doit vider toutes ces choses, ne s'attacher à rien.
Parce qu'elles encombrent.
Oui, et puis pour se remplir, c'est le principe habituel de la vie spirituelle, hein, pour se remplir de Dieu, il faut se vider de tout ce qui n'est pas Dieu. Alors, il faut le lire avec une certaine sagesse, hein, parce qu'on peut mal le comprendre, mais il reste que son exigence est tout entière mue par l'exigence même de l'amour de Dieu, parce qu'il a une vision précise de ce qu'est l'union. Et dans l'union, c'est vrai que Dieu est tout pour l'âme. Je n'ai plus d'autre occupation, ma seule occupation est d'aimer. Donc l'âme doit s'évader d'elle-même. C'est ce qu'il raconte dans la montée du Mont Carmel. Je pense que ça pourrait se rapprocher de certaines visions des psychologues. Hein. C'est-à-dire que notre ego est quand même comme un pharaon qui nous retient esclaves. Et on voit que pour aimer, il faut sortir de soi. Parce que tant que je veux l'autre pour moi, je le ramène à moi, je le consomme, et donc je n'aime pas. Et donc pour aimer, il faut être totalement tourné vers
décentré
l'autre.
Décentré de soi.
Décentré de soi. Ouais. Et c'est cela le renoncement. Le dépouillement, c'est se quitter soi-même, s'évader de soi. Mais c'est Dieu qui opère ce passage. C'est-à-dire, je vais y contribuer. Mais ultimement, ce qui fait que j'arrête de me regarder, de vouloir me grandir, être mu par mon amour propre, si vous voulez, ce qui fait que j'arrête ça, c'est parce que l'amour de Dieu m'a endormi, m'a enveloppé dans sa nuit et fait que désormais je suis si bien aimé que j'arrête de vouloir me sauver moi-même, faire des choses pour moi. Je suis comme Jésus. Jésus est totalement abandonné à la providence de son Père. Il est totalement dans la main du Père. Et donc, il n'a pas le souci de lui-même. Il se contente d'être fils. Voilà. Et donc, pensez au psaume 130. Hein. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Ça, c'est l'agitation de l'homme qui veut se grandir. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant. Comme un petit enfant contre sa mère. C'est-à-dire que plus je me suis laissé remplir par l'amour de Dieu, plus mes puissances se posent en lui, dans le silence, comme un petit bébé. Et donc j'arrête de gesticuler. Donc vous voyez, c'est ce que vous disiez là. Jean de la Croix, fondamentalement, c'est comment se laisser aimer par Dieu.
Voilà, tout simplement, et nous allons rester sur cette conclusion. Merci beaucoup, frère Henri Carme, au couvent de Toulouse, de nous avoir fait entrer dans cette foi de Saint Jean de la Croix.
Merci à vous.